fait, remettre en question des choses, des couples, des types de couples par rapport aux enfants, l'éducation des enfants. C'est impressionnant. C'est une bonne lecture, il faut y aller. J'ai été même moi-même surpris. Ensuite, on aura un deuxième point, un gros point, on va dire, ce que dit la Bible de la famille. Et là, je vais être très théorique. Je ne vais pas beaucoup rentrer dans le détail. On va balayer ensemble la Bible en partant d'un seul postulat, c'est que dans la parole de Dieu, vous n'avez pas un chapitre qui parle de la famille. Vous n'avez pas, si on vous demande, ben, parle-moi de Jésus, vous dites les quatre évangiles. Si on vous demande de parler de la conversion, quatre évangiles, certaines épîtres, il y a des passages clés, des passages qui en parlent très très bien. Mais la famille, vous en avez plein. Plein de petits passages, plein de petites bribes. Il y a des fois où c'est que le couple, des fois où c'est que les enfants. L'Ancien Testament regorge d'histoires de famille, mais on ne peut pas dire que ça soit normatif, on ne peut pas dire qu'on puisse prendre ces exemples et dire, bah, puisque eux, ils ont fait comme ça, nous, on va faire pareil. Et dans les épîtres de Paul, notamment, aussi de Pierre, on a un peu plus d'éléments de réflexion. Donc là, on va basculer, on va vraiment survoler la parole avec plein de textes, plein de références. C'est plus en fait un travail que j'ai fait pour que vous puissiez ensuite revenir dessus vous-même, chercher des choses vous-même. Et en troisième point, c'est le seul que je n'ai pas détaillé puisque c'est la surprise, en troisième point, on va justement parler de nos familles. Maintenant, en 2015, on va prendre un passage en particulier dans l'Ancien Testament et j'aimerais qu'on s'attarde sur tous les thèmes de la famille. Il y en a un qui a retenu mon attention, c'est la transmission. Dans la famille, transmettre la vérité de Dieu, transmettre le conseil de Dieu. Comment on fait, comment on s'y prend. Et vous avez vu, je suis descendu, j'ai essayé de faire un petit cercle, on va papoter ensemble. Hein. Dans la troisième partie, il n'y a pas que moi qui vais parler, on va se poser des questions, on va peut-être même sortir un peu de ce que j'ai prévu. C'est pas grave, le but unique, ressort tous, y compris moi, avec l'envie, le plus grand, la plus grande envie en fait de parler de Jésus dans nos familles et que Jésus soit le centre dans nos couples, dans nos familles, pour nos enfants, pour nos parents, pour ceux qui ont des parents encore, pour nos cousins, pour nos cousines, pour notre famille. D'accord ? Je vais, Patrice, tu veux prier peut-être pour commencer cette soirée ? Amen. Je vais vous faire plaisir. Est-ce que vous êtes allé sur le site de la Manif pour tous ? Vous pouvez le trouver. Alors, je n'ai pas été gentil avec eux. À chaque fois que vous voyez des petits crochets, c'est que j'ai coupé. Et les trois derniers points, j'ai même enlevé le texte parce que ça n'apporte pas grand-chose. Manif pour tous. Pourquoi je l'ai mis ? Parce qu'on va parler de la famille, que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mariage pour tous, c'est le mariage homo imposé à tous. Le mariage pour tous, c'est la fin de la généalogie pour tous. Le mariage pour tous conduira inéluctablement à la procréation scientifique pour tous. Ok. À ça, je suis toujours allé sur des sites non chrétiens, on va voir plusieurs constats de la famille avec des tableaux. Celui-ci date de 2014, hein, donc il y a un an. Donc en rose, vous voyez les mariages qui déclinent, les pax au-dessus, en gris pour vous. En bleu, c'est les pax de même sexe. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des couples homosexuels, qu'on soit bien d'accord. Vous savez que l'histoire de pax a beaucoup été développée aussi pour tout ce qui était question d'impôts. Donc ça peut être des frères et sœurs qui ne couchent pas ensemble, hein, c'est, donc, mais ça rentre là-dedans. Et en vert, en tout petit, sur les deux dernières années, vous avez le mariage de même sexe. Okay. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que si les homosexuels ou les couples femmes-femmes auraient voulu se marier depuis 2000, ou en tout cas être paxés, même s'ils l'avaient fait, ça veut dire qu'ils rentreraient dans la case pax de même sexe, vous voyez que sur 14 ans, c'est pas très flagrant, c'est pas très parlant. Donc la manif pour tous, on continue. Répartition des enfants par type de famille. Le gros bloc en rouge, famille traditionnelle ou famille nucléaire. Ça s'appelle comme ça, hein, nucléaire. Je vous expliquerai ce que ça veut dire après. Famille monoparentale, 18%, famille recomposée, 11%. Tout le monde comprend ? Monoparentale, un seul parent, recomposé, remariage, beau-père, belle-mère, beau-frère, enfin demi-frère, demi-sœur, etc. Et les couleurs représentent en fait où est-ce que vivent les enfants. Donc en rouge, les enfants vivent avec les deux parents, même en famille recomposée. Alors ça, je ne l'explique pas, il faudra quand même m'expliquer comment ça fonctionne. Mais bon, c'est les chiffres. Ce sont les chiffres, pardon. Le rose qui vit avec sa maman et le gris avec son père. On remarque une chose, c'est que si la famille est recomposée ou monoparentale, c'est essentiellement avec la maman que ça se passe. D'accord ? Si vous réfléchissez un petit peu, et si vous connaissez la société dans laquelle on vit, ça explique beaucoup de choses, par rapport au père notamment, à l'image du père, l'importance du père, l'autorité du père, etc., etc. Une notion de divorce dans notre société. Vous arrivez à lire, des parents peuvent-ils divorcer ? C'est la question qu'ils ont posée, d'accord ? Et vous avez les tranches d'âge qui ont répondu, et à quelque chose près, ils ont tous répondu à la même chose. On se trouve dans une moyenne de 80%. Ils sont d'accord. Si on est marié, on peut divorcer. D'accord ? Ça en dit long un petit peu sur l'état d'esprit des familles qui se marient aujourd'hui. Et il vous manque une donnée pour avoir vraiment toute la réflexion complète sur les chiffres d'aujourd'hui. C'est celui-là. C'est le nombre de divorces par année. Et je suis assez surpris. Donc tous ces chiffres, hein, je vous le répète, ont été pris sur des sites officiels. Je suis surpris de voir que ça a même diminué en fait. Ça a beaucoup augmenté en 2005, je ne sais pas ce qui s'est passé, 2005-2006, mais après c'est resté, on va dire quand même que ça stagne, c'est quand même assez peu évolutif. Par contre, ce qui est important de comprendre, et c'est là où on a tendance à dire oui, mais on entend plus parler de divorce, etc. C'est le deuxième chiffre qui est important, regardez ce qui est écrit, indicateur conjoncturel pour 100 mariages. En gros, c'est le pourcentage, si on veut dire faire simple. Donc si on revient sur le premier tableau qu'on a vu, ben, plus les mariages descendent, par contre le pourcentage lui reste le même des divorces. D'accord ? Donc c'est parlant, on va dire qu'on a à peu près la même chose. Mais ce que ça veut surtout montrer, c'est que quand on nous sort des chiffres, notamment sur la Manif pour tous, on a lu tout à l'heure on va dire ce qui est inscrit sur leur site, on voit que ce n'est pas tout à fait la réalité. Du coup, je me suis posé une question, je me suis dit, mais si ça, ces chiffres-là ne nous surprennent pas, en fait, d'où vient tout ce qui nous surprend sur la famille ? Le manque de repères, les familles qui sont complètement éclatées, etc. D'où est-ce que ça peut venir ? Ben, en fait, ça vient des familles qui sont normales, des familles qui sont composées de façon normale. Les types de familles en France, donc c'est là où je vous ai dit on va parler de nucléaire. Il y a une petite blagounette dans les affiches, mais vous verrez, si vous comprenez, c'est que vous êtes fort. Famille nucléaire ou dite normale, est-ce que je vous l'explique ? Ceci dit, je vous rappelle quand même que c'est jusqu'à il y a très peu de temps le modèle exclusif que connaissait la France, dans le sens... le modèle le plus répandu, on a quand même vu qu'il y a 71%, les chiffres datés de 2014, 71% de familles classiques, familiales traditionnelles en France et en Europe. On a monoparental, ben, comme son nom l'indique, il y a un seul parent, et comme on a vu le tableau juste avant, c'est essentiellement des familles avec les mères, familles recomposées, là c'est des remariages, vous avez les beaux-pères, les belles-mères, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai des demi-frères, j'ai des demi-sœurs. Est-ce que vous savez combien de demi-frères et demi-sœurs j'ai, moi ? Vous savez pas ? J'en ai 7. Du côté de mon père biologique, j'ai 4. J'ai 2-3 sœurs et un frère. Et du côté de ma mère, on est 3. Donc on est 7 en tout. Donc vous voyez, ça peut exploser. Et puis après, ça s'enchaîne parce que vous avez les grands-parents, alors les grands-parents, vous en avez 4 ou 6, ça dépend des fois. Bref. Et vous avez quelque chose qui est sorti du coup, on en parle beaucoup plus maintenant, mais c'est encore un petit peu bizarre, on va dire, de l'appeler comme ça, mais famille homoparentale. Pourquoi c'est bizarre ? Parce qu'il y a très peu de temps que le mariage est autorisé, vous le savez plus que moi. Et c'est aussi le fait que quand on dit famille, on dit forcément enfant. Sauf qu'une famille homoparentale ne peut pas faire des enfants. On est d'accord ? Donc en fait, c'est le fait qu'ils puissent se marier qui leur donne le lien avec l'enfant, et donc du coup, c'est pour ça qu'on les appelle familles homoparentales. Vous me suivez ? Voilà, bon, c'est les types de familles qu'on peut rencontrer, et j'attends toujours l'explication du Batman, si vous l'avez. Je suis preneur. Je plaisante, hein, je l'ai l'explication. Je les ai tous vus. Les pertes de repères. Pour ceux qui n'étaient pas là, je réexplique un petit peu comment on s'est organisé. On fait tout un panel sur les chiffres, le couple tel qu'il est décrit aujourd'hui, et ensuite on va attaquer sur la parole de Dieu. Donc j'ai mis les pertes de repères, mais j'ai mis selon la Bible, parce que ça dépend pour qui vous posez la question, c'est pas forcément une perte de repères. D'accord ? Donc sur le couple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben, homosexualité qui se développe, bisexualité, vous avez aussi des pluripartenaires, plusieurs partenaires, le Pax, qui est un peu décliné à toutes les sauces, je vous ai même peut-être appris que des frères et sœurs se paxaient juste pour des questions d'argent, enfin d'impôts. Sur le rôle de l'homme et de la femme dans le couple et dans la famille, là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, mais j'ai été surpris, presque choqué, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire du congé parental. Alors nous on est en plein dedans parce qu'on est en train de le vivre, mais est-ce que vous savez que normalement, si la loi passe, je ne sais pas si elle est passée ou pas, donc le père et la mère peuvent prendre, normalement c'était la maman qui pouvait prendre 3 ans. D'accord, de congé parental. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Alors, il faudra expliquer aux employeurs comment le père va prendre 18 mois de congé. Ceci étant dit, vous ne pouvez pas le retranscrire sur la mère. Donc, peut-être que ceci explique cela. Ils ont simplement coupé en deux, en fait, hein, les congés parentaux. Donc, le rôle, pourquoi le rôle de l'homme et de la femme ? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, tout ça vient de quoi ? Du fait qu'on a tellement voulu mettre la femme à l'égal de l'homme dans tous les domaines de notre vie, y compris dans le couple, y compris avec les enfants, et bah du coup ça donne des situations comme ça, un peu bancales, pour pas dire beaucoup. Sur la conception des enfants, j'ai mis conception des enfants exprès puisqu'on est en plein dedans, on est en train d'en parler. La GPA, hein, la gestation pour autrui, ça. Et du coup, c'est une question qui va être délicate parce que si elle arrive, si c'est effectivement voté, ça va nous poser plein de problèmes. Ça va légitimer la famille homoparentale. Donc pour nous, ça va être un peu problématique aussi. Leur éducation, je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps du programme. Enfin, c'était ma femme qui le regardait, mais j'ai lu le programme de ma fille en histoire notamment. C'est là que j'ai découvert tout ce qu'il pouvait raconter sur la Bible, sur Abraham par exemple, qui est un mythe. Complet, enfin, c'est écrit noir sur blanc, hein. C'est un mythe, c'est ce qu'ils apprennent à nos enfants. Plein de choses comme ça, enfin, c'est vrai que peut-être que je suis en retard pour certains, peut-être que se renseigner plus que moi sur la question, mais en tout cas, il y a sur la question de l'enseignement, la place de l'enfant aussi dans les familles. Alors suivant où vous vous déplacez en Europe, ça peut changer un petit peu, mais on se rend bien compte qu'il y a un malaise, que l'enfant, plus vous allez maintenant dans les écoles, plus l'enfant fait ce qu'il veut, on ne peut plus rien lui dire, dès qu'on dit quelque chose, c'est tout de suite... Je vois Patrice qui bout sur sa chaise, hein, professeur, il sait ce que c'est. Donc, mais j'ai mis les deux, parce que je me suis dit que ce ne serait pas juste de mettre l'enfant roi, il y a aussi les enfants qui sont complètement oubliés. Les enfants travaillent, le laissent à la maison jusqu'à 20h, 21h, sans qu'il y ait personne qui les surveille. Qu'est-ce que ça donnera derrière, je ne sais pas. Du coup, j'en reviens à la manif pour tous, est-ce que c'était vraiment notre plus gros problème ? Ce qui est, en tout cas, le texte qu'on a écrit, hein, je ne parle pas d'aller manifester, le texte qu'on a lu sur la manif pour tous, est-ce que c'était le plus gros problème ou est-ce que notre plus gros problème, en réalité, il est là, les pertes de repères. Et je voudrais juste qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est pas parce qu'on est chrétien et que peut-être de façon majoritaire, je vais être fatigué ce soir, hein, on a peut-être tendance à avoir des familles classiques ce soir, il y en a autour de nous qui ne sont pas des familles classiques, mais peut-être qu'on se dit, bah nous on est des familles classiques, ça va bien, on rentre dans la case de ce que la Bible a demandé, etc. Donc tout va bien. Mais je nous rappelle qu'on n'a pas de jugement à donner, okay, ni sur les personnes. On n'est pas d'accord, un homosexuel, je n'ai pas à le juger sur ce qu'il est lui, je dois l'aimer, je dois lui parler du Seigneur, je dois essayer de lui amener la parole dans sa vie, lui amener le Seigneur. Mais par contre, je dois lui expliquer ma position par rapport à ce qu'il fait. Et la position que Dieu veut qu'on tienne. C'est important de dire qu'on ne peut pas juger. Parce que c'est facile. Moi, j'ai une famille, je suis marié, j'ai des enfants, tout va bien, entre guillemets. Je rentre dans le cadre plutôt classique. Je pourrais vite juger et critiquer les autres. Mais bon, de par ma position personnelle, je ne peux pas le faire, puisque du côté de ma famille, c'est des familles recomposées, monoparentales, enfin tout ce que vous voulez, donc je ne peux pas le faire. Mais je vous invite à vraiment ne pas le faire non plus. Et à garder aussi le conseil de Christ en disant que seul Dieu va juger les choses. Et nous, notre rôle, c'est d'amener la parole à ces gens-là, de les entourer du mieux qu'on peut, de leur donner, en fait, l'évangile, la bonne nouvelle. Je me pose une question aussi, c'est pour ça que j'ai mis un stop. Une autre question. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables, Je vais aller loin dans la réflexion, peut-être faut me suivre. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui pour les familles? Est-ce que c'est nous, chrétiens, qui pour la plupart ont des familles classiques, est-ce que c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe dehors? Est-ce que quelque part, notre témoignage est suffisamment percutant pour faire comprendre aux gens quel est le modèle de famille qu'ils doivent avoir? Je vous pose la question, hein, c'est à vous de répondre comme vous le voulez, mais je voulais quand même qu'on se pose la question. Quel est le témoignage qu'on rend à l'école de notre famille? Quel est le témoignage qu'on veut que nos enfants rendent à l'école de notre famille, nous en tant que parents? Comment on s'implique dans la vie de l'école de nos enfants, etc., etc. Comment on parle du mariage? Comment on défend le mariage au travail? Toutes ces choses-là. On passe au deuxième point. La Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la famille? Vous avez des idées? Donc tout à l'heure, on a expliqué que on n'a pas de texte fondateur, on n'a pas un texte précis dans un livre précis de la parole de Dieu qui explique, voilà, la famille, c'est ça. Tu prends le texte, tu l'étudies à fond et tu sauras ce qu'est la famille. Vous êtes d'accord avec moi? À moins que j'en ai oublié un, mais normalement, non. Pas de texte fondateur. Par contre, on peut avoir des exemples dans l'Ancien Testament. Ça commence par Adam et Ève. Exemple sur le couple. Comment se comporter en couple. On voit d'ailleurs, dès le départ, l'attitude d'Adam. Mais on en reparlera dans la troisième partie. Adam qui est un petit peu absent lors du péché. Je ne sais pas où il est. Abraham et sa femme aussi. Situation un peu bizarre. Vous vous rappelez du mensonge aussi. C'est pas ma femme. Bon, c'est un peu bizarre dans le couple. Il y a aussi des fratries, Joseph et ses frères. Quand même bizarre qu'ils vendent leurs frères, qu'ils soient jaloux à ce point. Enfin, c'est des choses qui sont... Je ne sais pas si vous êtes jaloux au point de vendre votre frère ou de le mettre dans une citerne, j'en sais rien. Peut-être que c'est arrivé. Hein, on a David et ses fils. Hein, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé derrière. On a Jésus aussi et sa famille. La façon dont Jésus parle à sa famille. La place qu'il met... Hein, à Cana, aux noces de Cana, pardon, quand il parle à sa mère, il remet les choses en place parce que lui, il est rentré dans le ministère. Donc il y a une relation avec la famille. On va lire aussi un texte qu'on va prendre dans Matthieu 10, qui parle, Jésus parle de la famille. Donc, la problématique avec les foyers ou les familles de l'Ancien Testament, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit des normes. On ne peut pas dire qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour en tirer des conclusions et dire, bah voilà, la famille, c'est ça, point barre. Par contre, ce sont des exemples. Souvent des exemples à ne pas reproduire, mais bon, des exemples en tout cas. On voit aussi Dieu agir dans leur vie. Ensuite, vous avez la loi. La loi qui était importante en Israël, puisque la famille était la composante de base de la société d'Israël. Vous avez les patriarches, vous avez le père de famille qui était responsable de toute sa tribu. Les familles, ce n'était pas juste deux personnes et trois enfants. Hein. C'était 50, 60, 100 personnes. C'était presque des tribus entières. Vous avez le patriarche qui était responsable de tout ça. Et donc, ça avait une importance. Et la loi était donnée par Dieu, donc. Vous avez des lois civiles dans Exode, des lois pour les criminels aussi dans Exode, dans Lévitique, pardon. Exode 21 pour civil, Lévitique 20, et la famille, nombre 27 ou 36, par exemple, qui permettent de régler nombre de questions dans le détail. Vous avez plusieurs lois aussi sur le partage, comment on fait, comment on divise. Il y a un nombre de lois extrêmement importante. Vous avez les lois religieuses, les lois éthiques aussi, relations, plein de lois. Donc on peut piocher aussi dans les lois, dans le Pentateuque, exclusivement pour les lois, et on peut aller chercher plein de choses, les 10 commandements, forcément. On a plein de lois comme ça, qui peuvent être pratiques pour nous, qui sont des normes plus ou moins, ça dépend quelle loi on prend, mais qui peuvent être des... Enfin, honore ton père et ta mère dans les 10 commandements. Ça, c'est normatif. C'est une norme. On honore son père et sa mère. C'est comme ça que ça fonctionne selon Dieu. Ensuite, si on continue un petit peu dans la Bible, on va trouver quoi? Les proverbes, forcément. 31 livres qui sont super pratiques. Ne parle pas que de la famille, je suis d'accord, hein, mais ça incite beaucoup à de la réflexion sur la sagesse, sur la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, on va y revenir dans le troisième volet aussi. On a le Cantique des Cantiques, qui là est un livre... qui est exclusivement réservé au couple, et qui, quand vous le lisez, il est quand même en contraste, c'est ce que j'écris, en contraste flagrant avec ce que vivent les couples aujourd'hui. D'accord ? Il y a plein, j'ai noté quelques points. Accordez à votre époux ou l'épouse l'attention dont elle a besoin. Prenez le temps vraiment de connaître votre conjoint. Faites d'elle ou de lui la deuxième personne la plus importante au monde. Et oui, parce que la première, c'est Jésus. Chérissez, prenez plaisir l'un à l'autre. Faites tout ce qui est nécessaire pour réaffirmer votre engagement à votre conjoint. Ne considérez jamais le divorce comme une solution, ces choses-là. Ensuite, on continue et on arrive. Là, on va prendre un peu plus le temps parce qu'on va lire ensemble les textes. On va prendre trois textes. Un dans l'évangile de Matthieu, qu'on verra en dernier, et deux dans les épîtres de Paul. Donc Éphésiens 5, si vous voulez le prendre avec moi. Si même quelqu'un veut le lire, il peut. 5 à partir du verset 22 jusqu'à 6. On peut lire rapidement. Personne ne veut lire ? Vous voulez que je commence ? Non ? Bon, allez, j'y vais. 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toute chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Retenez le 31. « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. » Notez bien celui-là aussi. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui le font de toute leur âme, la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Pourquoi j'ai lu tout le texte ? Parce que c'est un texte qui est souvent nommé pour parler de la famille. Peut-être du couple, essentiellement, et peut-être que des enfants pour la partie du chapitre 6. Je ne me suis pas attardé en fait à ce qu'il explique. Par contre, j'ai noté deux choses. Paul fait référence au texte de l'Ancien Testament. Les deux versets que je vous ai dit de prêter attention, le 31, 5-31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est un texte de Genèse. Genèse 2, 17, je crois. De 24, pardon. Et pour parler aux enfants, Paul reprend un verset d'Exode 20, 12, les 10 commandements. Et quelque part, je trouve ça intéressant que Paul fasse ça, puisque c'est notre sujet aussi. Ça prouve un peu ce qu'on vient d'expliquer sur le fait que dans la famille, il n'y a pas un texte, mais qu'il y a des références tout au long. Et Paul le sait, c'est pour ça qu'il reprend ses références aussi. Il y a aussi deux choses que je voulais noter, c'est que à chaque personne dont Paul s'adresse, que ce soit le mari, la femme, les enfants, l'esclave, le maître, Paul fait référence à Christ, à chaque fois. En deux façons, soit par substitution, quand il parle au mari et à la femme, il fait référence à Christ qui est l'époux de l'Église, d'accord ? Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il substitue le mari à Christ pour expliquer au mari comment il doit aimer sa femme et à la femme comment elle doit être soumise à l'homme. Et aussi par devoir, c'est plus avec les enfants et avec les esclaves. Il explique en gros, ben, si tu obéis à ton maître, parce que ben, tu dois obéir à Christ. Et en fait, c'est vrai pour l'esclave, mais c'est aussi vrai pour nous, tout simplement. Si on nous demande d'obéir, si les enfants doivent nous obéir, c'est parce qu'ils doivent obéir au Seigneur avant toute chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ce qui est important, c'est pas tant d'obéir aux parents, mais selon le Seigneur, car cela est juste. Et c'est important parce que dans la troisième partie, quand on va parler justement de la transmission, c'est de ça que je veux parler. C'est du fait que dans la famille, quel que soit le sujet, l'important c'est que Jésus soit au centre, que Jésus soit la première place. On va continuer avec l'exemple de Paul dans 1 Thessaloniciens. Peut-être qu'on ne va pas le lire, ce serait peut-être un peu long. Mais Paul écrit à l'église de Thessalonique et il parle d'amour à cette église. D'accord ? Il leur dit « Je vous aime » et « Je vous aime tellement ». Il emploie même au verset 8, que je n'ai pas noté, mais il emploie même le mot « tendresse ». Il les aime tellement et il explique que voilà, « Je vous aime comme une mère, je me suis occupé de vous comme une mère » l'aurait fait avec ses propres petits, avec ses propres enfants. Et c'est marrant de voir Paul se substituer au rôle de la mère. Et il fait pareil aussi en disant, un peu plus loin, « Je suis aussi un père pour vous, parce que je vous ai exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu. Je vous ai enseigné en quelque sorte, je vous ai cadré, je vous ai emmené là où Christ voulait que vous... voulait que... » Oui. Voilà. Il se substitue. Et autant, sur Éphésiens, c'est un texte qu'on peut donner à des familles recomposées, pour la place de l'homme, la place de la femme, essayer de guider les choses, de remettre Christ au centre, parce que c'est souvent un peu compliqué par rapport à l'autorité pour les enfants. Mon beau-père m'a dit ça, toi t'es mon père, mais en fait, lui il m'a dit ça, alors quand je vis chez lui, je peux faire ça, quand je vis chez toi, je peux faire ça. C'est peut-être un peu compliqué. Peut-être qu'Éphésiens peut aider justement à remettre et recadrer, non pas sur les hommes ou les femmes, mais sur Jésus. Simplement. Et l'exemple que Paul mène ici, pour la Thessalonique, ça peut être pour des familles monoparentales. Dire, bah voilà, moi je suis une maman toute seule, ou je suis un papa tout seul, même si on a vu que c'est plus souvent une maman, et ben je suis obligé de me couper en deux, d'avoir les deux rôles. C'est compliqué. C'est même des fois difficile. Et peut-être que vous pouvez trouver un Paul dans l'église. Peut-être qu'il y a un Paul, alors peut-être pas se substituer comme une mère ou un père, mais qui peut conseiller, qui peut entourer l'enfant, qui peut prendre du temps. Et ça, c'est une volonté du parent. Ça vient pas de l'extérieur. Si le parent qui est tout seul va vers l'extérieur et dit « bah voilà, j'ai un enfant, je me sens un peu seul parce que je ne sais pas comment lui expliquer ci ou ça bah », peut-être que ça peut être une solution. En tout cas, Paul, là, nous donne l'exemple. Lui, il l'a fait. Dans d'autres circonstances, on est d'accord, mais lui, il l'a fait. Et c'est marrant d'ailleurs que Paul, il aurait pu dire bah, « je vous ai aimé comme un grand frère, je vous ai aimé comme un grand copain, comme un maître ». Comme un rabbi, comme il aurait pu utiliser d'autres mots, mais il utilise celui de la famille, parce que c'est parlant, parce que ça marque, parce que quelqu'un qui te dit « je suis là comme un père pour toi », forcément ça touche plus, parce que la relation à la mère, la relation au père, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui est en nous, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis ça vous rappelle aussi peut-être des manquements, ou des choses qui se sont bien passées aussi dans votre passé. Et celui-là, par contre, il faut qu'on le lise ensemble. On va prendre Matthieu. Donc c'est Jésus qui va parler de la famille. C'est un passage qui est un petit peu particulier, mais qui est important parce qu'il va nous amener à la troisième partie. Matthieu 10, versets 34 à 38. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est compliqué, hein ? C'est lourd à entendre. mais c'est nécessaire, je pense, à entendre. Là, Jésus, il est en train de parler à ses disciples, uniquement à ses disciples. Il les prépare à la mission. Il leur a parlé de la mission, il leur a parlé des persécutions, les promesses pour les aider à vivre la persécution. Et là, il parle de la famille. Comme s'il restait un attachement sur certains disciples, peut-être. Et il parle de la famille. Et il dit, attention, quand il dit « je ne suis pas venu apporter la paix », c'est pour « tout est beau, tout est rose », c'est tout le monde il est gentil, c'est le monde des bisounours, moi je suis super gentil, en gros les règles que je vais donner, peut-être qu'on va pouvoir les transgresser. C'est pas ça qu'il dit. La preuve, à ça, il répond, j'ai amené l'épée. Et l'épée dans la parole de Dieu, je sais pas si vous vous en rappelez, quand on avait fait les armes du chrétien, l'épée c'est la vérité. C'est lui en fait, c'est lui-même. D'accord ? Il est venu s'amener lui-même, la vérité de Dieu. Inciser la vérité de Dieu dans nos vies. Et il explique que quelle que soit la discussion qu'il peut y avoir dans les familles, quel que soit le modèle familial, nucléaire, monoparental, ce que vous voulez, quel que soit le modèle, le premier qui doit être dans notre vie, et à tous les rangs que ce soit, enfants, parents, grands-parents, à tous les rangs que ce soit, le modèle parfait qu'on doit avoir, c'est Jésus. Il faut avoir conscience que nous devons être dignes de Jésus, et plus que dignes, on doit porter notre croix. Ça va plus loin encore, d'accord ? Ça veut dire que les liens du sang devant le miracle de la bonne nouvelle que Christ apporte dans nos vies, ça ne tient pas. Vous vous rappelez ce qu'il dit à ce disciple ? Il dit, mais attends, tu vas où ? Il dit, mais il faut que j'aille enterrer quelqu'un, il faut que j'aille dire au revoir à quelqu'un, j'ai encore des affaires réglées. Il dit, non, laisse ça de côté, viens avec moi. Ça ne veut pas dire pour autant, et je vous fais référence à ce qu'on a dit au début, qu'il faut juger, mépriser, qu'il faut balancer en pâture ses parents en disant non, mais moi Jésus il a dit que c'était lui que je devais suivre et que lui, on vient de le lire, honore ton père et ta mère selon le Seigneur, parce que cela est juste. Tous ces textes qu'on vient de voir, je vous avais dit, on les survole, je vous donne des bases. Vous pouvez les noter, le PowerPoint, je peux vous le donner. Reprendre ces textes, aller dans la loi, voir tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, tout ce qu'on peut noter, les proverbes, tout ce qu'on peut insérer dans notre vie de tous les jours. Ce texte-là, allez l'expliquer à nos enfants. Compliqué. Dire, il ne faut pas que tu me fasses confiance à moi en premier, mais à Jésus. Et ça sous-entend que l'enfant, il connaisse Jésus suffisamment pour avoir des bonnes normes, des bonnes règles. Mais nous, c'est pareil, en tant que parents et en tant qu'enfants, puisque moi, j'ai encore mes parents, en tant qu'enfant, je dois moi aussi obéir à Jésus et honorer mon père et ma mère. Je voulais vous poser deux questions. On a basculé là, on va dans le texte, dans le thème, pardon, dont je voulais aborder ce soir, puisque ce soir, là, on a survolé. D'abord les constats que le monde peut nous donner sur le couple et la famille, et ensuite maintenant les textes de la Bible qui nous parlent de la famille. Et on a beaucoup de matière, on a beaucoup de choses, et je vous ai dit, on ne pourra pas parler de tout, c'est impossible. Le sujet est beaucoup trop grand, beaucoup trop vaste. Du coup, je me suis focalisé sur la transmission de génération en génération. Sommes-nous au clair sur l'enseignement que nous voulons transmettre à nos enfants ? Et la première question, en fait, est-ce qu'on a conscience qu'il faut transmettre quelque chose à nos enfants? Et est-ce qu'on a conscience, est-ce qu'on a la conviction qu'il faut transmettre Christ au centre de toute chose, y compris dans la vie de nos enfants, y compris dans notre propre vie? Et comment on le fait? C'est ce qu'on va voir maintenant, ensemble. J'ai trouvé une citation de John Nielsen, que j'ai traduite de l'anglais, parce que je la trouve vraie. Mais il y a une sphère primaire où l'évangélisation et le discipulat pour les jeunes doivent se développer. Cette sphère est simplement le contexte familial, le foyer chrétien. Les parents chrétiens, et pas seulement les parents qui sont engagés dans l'Église, doivent avoir le rôle principal, la responsabilité d'évangéliser et de faire de leurs enfants des disciples de Jésus. C'est notre rôle. C'était le rôle de mes parents. Ce sera le rôle de mes enfants par rapport à leurs enfants. Comment on vit ça? Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir la discussion tout de suite. Est-ce que, par rapport aux deux questions que j'ai posées juste avant, et par rapport à ce texte qu'on a là, est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse, vous ? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée ? Est-ce que c'est important dans votre vie ? Est-ce que ça l'a été important pour vos parents qui vous ont transmis quelque chose, qui ont voulu, qui ont volontairement prévu les choses pour vous transmettre la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu ? Je vous ai dit que la troisième partie, on allait... Sauf si vous dormez déjà, auquel cas j'accélère et je continue tout seul. Est-ce que vous avez eu des exemples, je ne sais pas, de schémas ? On va se parler maintenant. Hein. Non, personne ? Des cultes de famille, vous avez... Je ne sais pas, est-ce que vous pratiquez un culte de famille ? Est-ce que vous prenez le temps d'enseigner, de lire la Bible avec les enfants ? Ou de prier, ou de faire un, je sais pas, un retour sur ce qu'ils ont eu comme enseignement à l'école du dimanche, ou ce qu'ils ont eu à l'école, quand on leur dit qu'Abraham, c'est qu'une fable. Non, pas de... Prends Deutéronome. Chapitre 6, à partir du verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et ce que vous avez dit est vrai, et je vais aller plus loin parce qu'effectivement, si on veut transmettre déjà à nous-mêmes, si nous on veut se nourrir de la parole de Dieu, et si on veut transmettre ça à nos conjoints, que ce soit un homme ou une femme, et à nos enfants, même si j'ai une préférence hein, sur l'homme et la femme, mais on n'en parlera pas ce soir, mais Dieu là nous explique comment faire. Première étape, déjà, un petit rappel dans le 4. J'ai inclus le 4 pour que les choses soient claires. Et Dieu aime bien que les choses soient claires. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est unique. L'Éternel, c'est le seul. Quelque part, c'est le seul que tu dois écouter. Et la phrase tout de suite derrière, en gros, c'est l'Éternel, c'est le Créateur, c'est lui qui fait toute chose, c'est lui qui dirige toute chose. Et la phrase, le verset qui vient derrière, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et ce qui a motivé vos parents, ce qui vous motive peut-être vous, et ce qui doit nous motiver à transmettre la vérité de Dieu, c'est parce que nous aimons en premier Dieu. Parce que lui nous a aimés le premier, vous connaissez ce verset. Nous aimons Dieu parce qu'il est venu nous chercher, parce qu'il a changé notre condition. Et parce que j'aime Dieu, je transmets. Non, parce que j'aime Dieu, deuxième étape, je retiens la parole dans mon cœur. Et cette parole-là, et c'est là où tes parents étaient doués, cette parole-là, c'était un moment de joie parce qu'ils la vivaient eux, parce que c'était inscrit dans leur gène. Parce qu'ils s'étaient tellement fait, ces mots étaient tellement à eux, ils s'étaient tellement approprié la parole de Dieu, que c'était facile, c'était naturel pour eux de parler de Dieu. Et ensuite, tu l'enseignes à tes enfants. Ensuite, tu l'inculques à tes enfants. Et tu leur expliques. Et pas comme un sermon, pas comme une obligation, comme Hélène nous l'a dit. Mais... tu l'inculques comme une réalité, comme une vérité, comme une nécessité. Mais tu ne peux pas sortir de cette chambre sans que je t'explique qui est Jésus pour moi. Et une fois que je te l'explique avec un sourire comme ça et avec une envie et une joie débordante, mais ton enfant, il veut connaître Jésus. Alors je sais que c'est des mots, je sais que c'est plus compliqué parce que à tout ce que je viens de dire, il va falloir appliquer le quotidien, il va falloir appliquer les soucis, le type de famille... si vous êtes une famille recomposée, une famille monoparentale, une famille normale, s'il y a des situations dans la vie qui sont compliquées, on applique tout ça à ces versets-là et on se dit, fou là, compliqué. Compliqué, dur, peut-être infaisable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faisable. Mais c'est pas avec vos forces. C'est pas avec nos forces. On revient en arrière dans ce que j'ai dit. C'est parce que Jésus est le premier dans ma vie que j'arrive à puiser cette force. Et que j'arrive à trouver la force en Christ de dire à mes enfants, d'enseigner à ma famille, peut-être à mes parents. Mes parents ne sont pas sauvés. Aujourd'hui, je parle avec mes parents de Christ. C'est peut-être le rôle inversé, mais c'est notre monde qui veut ça aujourd'hui. Mais c'est mon but. Je dois parler de Jésus à mes parents. J'aimerais qu'ils soient sauvés. C'est ma prière. C'est presque normal. Mais est-ce que c'est un but précis, volontaire et de tous les jours pour nos enfants? Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment pour eux? Transmettre les commandements de Dieu. Jésus va aller plus loin. Déjà, il y a un mot qui va changer. C'est que c'est plus ta force, c'est ta pensée. Et je trouve que c'est joliment fait de la part de Jésus, puisque ce qui change énormément entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, surtout en concernant le péché, la loi, la justification, c'est qu'avant, si tu commettais un péché, il fallait tuer un animal pour justifier avec le sang, pour être sanctifié devant Dieu. D'accord ? Avec la loi, il fallait obéir à la loi quand tu commettais un péché. Christ, lui, il est allé plus loin, vous le savez. Il a dit, mais dès que tu penses, c'est déjà un péché. Et vous avez vu, il a tourné. Parce que si vous allez dans Matthieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est pas de toute ta force. C'est le premier des commandements, ce que Jésus dit dans Matthieu 22, 36 à 39. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toujours une question d'amour. La transmission, elle commence d'abord par aimer Dieu, et c'est comme ça que je vais pouvoir transmettre. Et Jésus, il va plus loin parce qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un truc de fou. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je parle, dans Deutéronome, on parle que de la famille. Et là, Jésus, lui, nous emmène au monde. Le prochain. Il n'a pas dit la famille, il a dit le prochain. Et donc, tu appliques ça au prochain de façon générale. Vous prenez la distance du changement et en même temps la profondeur de ce que ça veut dire. Ça veut dire que parce que tu aimes Dieu en premier, parce que tu fais de sa parole la tienne dans ton cœur, tu vas inculquer aux autres, tu vas aller chercher les autres. Et là, on rejoint Matthieu 28, dont Rolly nous a parlé dimanche. Faire des disciples. La boucle est bouclée. On est parti de la famille, et là, on revient sur le monde en général. C'est ce que Jésus nous apprend ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ce texte-là qu'on vient de voir ? Sur la transmission ? Alors, je suis d'accord avec toi et je vais même aller plus loin, un peu dans l'idée de Jésus qui dit que tu pêches déjà en pensant et quand tu veux transmettre, c'est un peu la même idée mais à l'envers, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'expliquer avec des mots, t'es pas obligé de prendre le temps, prendre la Bible et dire voilà, Jésus a dit ça, Dieu il a dit ça. Par contre, nous on peut vous le témoigner, ma fille elle est là, elle pourra le dire, on vit des situations qui parlent peut-être plus que des mots. Enseigne à tes enfants ce qu'est le pardon, c'est une chose. Demande pardon à un enfant ou à ta femme ou à ton mari devant tes enfants en expliquant, voilà, papa, il s'est énervé ou il a dit ça, il n'aurait pas dû. Je vous demande pardon, je demande pardon pour telle et telle raison. Point barre. Montrer, en fait, ce que Christ veut qu'on vive, mais le montrer de façon pratique, de façon réelle, concrète. Ce sont des exemples qu'on... Enfin, je ne sais pas, il y en a plein, j'espère aussi, dans vos familles. Parler de Jésus, parler de Dieu après un film. Même pas un film chrétien, un film. Prenez un film, on a vu ça, ouais, t'as vu, ta. Moi, je fais beaucoup ça avec les pré-ados ou avec le groupe de jeunes. Parler d'un film avec eux, alors ça sous-entend aussi qu'il faut les voir. Il faut en voir beaucoup. Pour ça, la petite blague de Batman tout à l'heure était pas mal. Mais du coup, vous parlez avec eux de ça. Et vous allez plus loin. Et en fait, vous essayez de les prendre là où ils sont pour les ramener sur un sujet. Dire, mais t'imagines ce que ce film, de quoi il parle ? Quelles sont les notions de... Gaël, il rigole parce qu'on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps. Et de dire, voilà, ce film te plaît, mais regarde les valeurs qu'il donne. Est-ce que tu penses qu'en fait, ces valeurs sont des bonnes valeurs ? Ouais, mais c'est un film. Ouais, mais tu l'as regardé. Ça veut dire que là-dedans, c'est imprimé. Ça veut dire que quand tu vas lire ça, il va y avoir un petit combat quand même. Parce que la norme, elle est là. La vérité, elle est là. Et de quoi tu te nourris tous les jours ? Et on en revient sur la question du « en tout temps ». Alors peut-être que ça veut dire que, et pour nous, pour notre famille en premier, la barre est très haute. Et encore peut-être plus haute si c'est des familles monoparentales, recomposées, etc. Mais c'est pas impossible, et surtout, quel que soit l'âge de la famille, j'ai envie de dire, que la famille soit pas encore créée ou qu'elle soit déjà ancienne, on peut encore évoluer, on peut encore changer. Pas parce qu'on a la force ou parce que nous on a la volonté, mais parce qu'en mettant Jésus devant, parce qu'en s'appuyant sur Christ, on peut progresser dans nos familles. On peut demander pardon sur des situations qui sont peut-être vieilles. Et c'est comme ça qu'on avance peut-être sur des situations qui sont peut-être très anciennes, peut-être douloureuses aussi. Mais Jésus, lui seul, nous permet d'avancer dans la famille. Et y compris dans la transmission. Alors j'aurais voulu, mais je ne sais pas si on a encore le temps, peut-être qu'il est un peu tard, j'aurais voulu en fait qu'on se mette juste en petit groupe, mais on n'est pas nombreux, donc peut-être que ça ne vaut peut-être pas le coup de le faire, qu'on se pose en fait la question, parce que là, on a été quelques-uns, on réagit, mais peut-être qu'en petit groupe, on réagit encore peut-être plus. Est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de la transmission ? Mais même si on est déjà en couple, même si on a déjà des enfants, même si on a déjà un certain âge, est-ce qu'on s'est déjà penché sur la question ? Est-ce qu'on s'est déjà dit, ok, comment je fais ? Vous savez, je voulais imaginer ça et j'ai été éclairé par ma fille Amy. Je me suis rappelé en fait d'elle qui regardait l'écriture. Et en fait, Amy, quand elle était petite, a compris que l'écriture, ça avait une importance. Parce qu'en fait, on communiquait. On écrivait quelque chose, ça signifiait quelque chose et ça parlait à l'autre personne. Et donc, elle voulait apprendre à lire pour apprendre à écrire. Donc vous partez de ce moment-là et vous lui dites « Ok, donc ça c'est une phrase avec plein de mots, avec plein de lettres. Donc je t'apprends ce que c'est qu'une lettre. » Et tu commences par l'alphabet, ensuite les mots, ensuite les phrases, etc. Mais ça sous-entend bon nombre d'années pour lui apprendre et ça sous-entend que celui qui veut apprendre à l'enfant à lire et à écrire, il va s'y prendre de très loin. Et bien c'est pareil pour nous quand on veut transmettre à nos enfants. On s'y prend peut-être de très loin, mais c'est normal, c'est un apprentissage. Et tu inculqueras à tes fils en tout temps, c'est aussi ce que ça veut dire. C'est que tu vas prendre tout ce qui sera dans tes mains parce que c'est tellement important, parce que ça représente tellement. Je voulais faire une petite aparté aussi, notamment parce que je sais que dans notre église, il y a des familles monoparentales et je trouvais peut-être pas juste, puisque dans Éphésiens, on a lu que le père était le chef de la famille, était le chef du couple, etc. C'est lui qui a la responsabilité de l'enseignement spirituel dans la famille. Et je voulais noter une petite chose, c'est que quand le père, il n'est pas là, il ne faut pas oublier qu'on en a un quand même de papa. On en a un quand même de père. Et celui qui vous parle ce soir, c'est la première chose que j'ai comprise de Dieu quand je me suis converti. N'ayant moi-même pas de père, j'ai pris Dieu au mot. Il m'a dit, mais moi, je suis le père par excellence. Je suis celui qui peut être ton père et qui peut t'apprendre des choses. Et je l'ai pris au mot. Et pour celles et ceux qui sont dans ces cas-là, vous pouvez toujours vous référer à Dieu comme Père. On a un Père céleste qui prend soin de ses enfants, qui nous aime. Et d'ailleurs, on revient de nouveau à Deutéronome, c'est une question d'amour. Tu veux transmettre, d'abord tu aimes Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il t'a aimé. Je voulais qu'on partage maintenant un peu plus, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Vous avez compris le schéma, je suis parti de très large et je me suis vraiment recentré sur une partie de la famille qui est la transmission, avec des points précis, notamment avec Deutéronome. Et je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des compléments. C'est bien, Benjamin, parce que c'était ma conclusion. Sur le fait que, quelle que soit notre place dans la famille, qu'on soit des enfants, qu'on soit des parents, qu'on soit des beaux-parents, qu'on soit des demi-frères ou des demi-sœurs, l'important pour pouvoir vivre la famille telle que Dieu le veut, c'est de mettre Jésus au centre de notre vie. Si chacun des membres de la famille met Jésus au centre de sa vie et développe personnellement avec Jésus une vie de prière et développe personnellement avec Jésus l'envie d'aimer Dieu, l'envie de prendre Dieu et de se l'approprier par sa parole, de connaître son Père céleste. Une fois qu'on a ça et qu'on a mis Christ au centre, mais c'est naturel. Tout va être naturel derrière. Je ne dis pas que ce sera simple parce que le cœur de l'homme est tortueux, parce qu'on est égoïste, parce qu'on est orgueilleux. Ce ne sera pas simple. À cause de nous, pas à cause de lui. Mais si lui reste au milieu, si à chaque fois on revient sur Jésus, comme vient de le dire Ben, si à chaque fois on revient sur le modèle de Christ, notre famille ne pourra être que bénie et on pourra que grandir ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il faut être persévérant, oui. Oui, notre société, elle aide pas, déjà nous, elle nous aide pas, mais les enfants qui arrivent, même les plus petits... C'est sûr que la perte de repères que j'ai écrite, on a été succinct, on est passé dessus comme ça, mais le rôle du père, on aurait pu développer le rôle du père, c'est affolant, affolant. Vous enlevez un père, vous enlevez l'autorité d'un père dans une famille, même dans une famille chrétienne, ça existe bien plus qu'on peut le penser. C'est une catastrophe derrière, une catastrophe. Sur l'autorité des enfants, enfin moi je vois les préados, pas qu'il y ait des terribles, pas qu'il y ait des cas très spécifiques, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire, à partager, à voir. Et c'est là où la substitution, comme Paul l'a fait, j'ai été une mère pour vous, comme un père pour vous, elle peut être intéressante. Même dans une famille classique. Mais ça doit être une volonté des parents, d'avoir la notion de dire, pétard, peut-être qu'il faut... J'ai oublié complètement de parler d'une chose qui était l'hospitalité, de faire rentrer dans vos maisons des familles, des frères, des sœurs qui vont pouvoir partager, qui vont pouvoir aussi enseigner vos enfants, accueillir les serviteurs qui viennent prêcher à l'église, ceux qui viennent faire des séminaires. Ils vont parler à table. Et ils vont parler avec qui ? Avec vous, avec vos enfants. Demandez à Jess qu'elle vous raconte tous les serviteurs qu'elle a vus chez ses parents quand elle était petite. Après, sur la vie de famille, il y a une multitude d'axes dans lesquels on peut partir. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu remarqueras dans Deutéronome, il ne dit pas « tu sauveras tes enfants en leur donnant la parole de Dieu ». Il faut transmettre. Mais tu vois, par exemple, un ado ne veut pas venir à l'église. Mais si la transmission est importante pour chacun d'entre nous, et que ton ado veut pas venir à l'église, et que moi je le sais, et que je sais aussi que ton ado, je peux le croiser sur le terrain de foot à côté de chez toi, ben je vais au terrain de foot et je vais parler avec ton fils. Mais parce que dans ma conception de la famille, la transmission a un intérêt et est importante. Et Daniel a raison de ce fait de parler de l'église, parce que c'est effectivement ce qu'on doit vivre dans l'église. Pas se borner à notre propre famille et profiter les uns des autres, mais c'est se supporter les uns les autres. Vous savez ce que c'est, supporter ? C'est passer l'épaule sous l'autre pour le surélever, pour le porter. Et c'est ça. Moi, je... C'est ça. On est frères et sœurs. Ça a un sens. Frères et sœurs. Moi, je prie que le Seigneur, un jour où ma fille aura dévié peut-être, je prie que des gens soient sur sa route. Puisqu'effectivement, je sais, parce que je l'ai vécu moi-même, qu'à un moment donné, les parents, on n'entend plus. On ne veut plus entendre. C'est même pas une question de logique ou de... On ne veut plus entendre. Il faut en être conscient, c'est ça que je veux vous dire. Il faut avoir conscience de ça. On a un rôle, déjà pour nos enfants, et peut-être aussi pour d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, je ne me suis rien dit. Dans les mains du Seigneur, c'est compliqué à répondre comme ça, mais je pense que c'est simple en même temps. Dieu met les choses aussi devant nos yeux. Tant que tu es proche de lui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tant que tu es proche de lui, que tu te nourris de lui, à un moment donné, il va te guider. Bon, il s'est trouvé qu'il y avait ce voyage qui est organisé, il s'est trouvé qu'on est partis ensemble, il s'est trouvé que là-bas, il y a des mots qui ont fait que ton cœur a été touché et que le Seigneur avait prévu toutes ces choses. C'est pas moi, c'est lui qui a prévu. Moi, je suis que l'instrument là-dedans. Et c'est ça, ouais. C'est une question d'amour, c'est ce qu'on a. Question d'amour. Et c'est long, hein, 15 ans. Ouais, merci Seigneur. Je sens que John, t'as envie de prier pour conclure ce moment.